France Inter, franceinter.com.
Au Kenya, le bilan des trois derniers jours est lourd. Médecins sans frontières parle de massacre.
35 personnes brûlées vives dans une église. Elles appartenaient toutes à l'ethnie Kikuyu.
Quand je suis arrivé dehors, des hommes se faisaient couper à la machette. Des enfants couraient partout. C'était horrible.
It was horrible.
Ans d'histoire. Le 30 décembre 2007, la proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Kenya provoquait des scènes d'une violence inouïe qui rappelait celles qu'on avait vues au Rwanda il y a 13 ans. Les fraudes qui avaient permis la réélection de Mwai Kibaki jetaient dans les rues les partisans de son principal adversaire, Raila Odinga, et dégénérait comme dans d'autres pays d'Afrique en affrontement entre les différentes ethnies d'un pays considéré jusque-là comme un modèle de démocratie. On était loin des images de cartes postales destinées aux touristes, loin des safaris photos, des éléphants, des guerriers Maasai, des plages de sable de l'océan Indien et des hauts plateaux de cette ancienne colonie britannique où, il y a un siècle, Karen Blixen avait décidé de faire pousser du café.
Nous ferons du café.
Nous ignorons tout du café.
On le plante. Et ça pousse.
Nous en planterons sur combien?
Sur 400 hectares, d'après le baron.
Et cela prendra combien de temps?
Ça dépend de Kilanjui. C'est le chef des Kikuyu. Faut traiter avec lui pour la main-d'œuvre.
Et notre première récolte sera pour quand?
Pas avant 3, peut-être même 4 ans, facile. Et si ça prend encore, on n'a jamais fait du café à cette altitude.
Vous me planterez 500 hectares. Chef Kilanjui, on m'a dit que tu es un chef très sage. Et je me réjouis d'avance de nos relations. Tes Kikuyu sont de bons travailleurs. Et je suis impatiente de traiter avec eux en toute loyauté.
T'en fais pas, Sabu. C'est un chef. C'est un Kikuyu.
Anasalimi ya Kinanjui, chifu ya Kikuyu. Anakuombea maisha mingi mingi. Anasema, tafadhali, leta watu 1000 kufanya kazi za kahawa.
Claire Médard et Hélène Charton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux des spécialistes du Kenya où se sont produits il y a un peu plus d'un mois des événements que l'on ne peut pas comprendre sans rappeler, sans connaître l'histoire de ce pays indépendant en 1963 après des années de colonisation britannique qui ont laissé des traces, ne serait-ce que des frontières à l'intérieur desquelles vivent des dizaines d'ethnies différentes. On a dit beaucoup que ces affrontements de la semaine dernière, enfin des dernières semaines, étaient dus à des rivalités ethniques, un peu comme au Rwanda, en Côte d'Ivoire ou au Soudan, Claire Médard.
Il faut bien comprendre que ces rivalités ethniques se formalisent dans le cadre d'un État et sont vraiment à rattacher à une compétition politique et donc à bien comprendre dans une dimension longue d'ethnicité et de négociation pour l'accès au pouvoir.
Hélène Charton ?
Effectivement, c'est un petit peu délicat de comparer ça directement avec le Rwanda, en termes d'échelle, effectivement, qui n'est pas du tout le...
Je dis ça parce qu'on a reproché, au fond, aux anciens colonisateurs d'avoir tracé des frontières indépendamment, sans tenir compte des ethnies qui vivaient à l'intérieur et qu'on forçait, en quelque sorte, à cohabiter ensemble dans des États qui ne sont jamais devenus des nations.
Ce qui est certain, c'est que effectivement, la notion d'ethnicité est quelque chose qui s'est beaucoup construit au cours de la période coloniale et qui a pu être ensuite instrumentalisée et continuer d'être construite pendant la période postcoloniale. Et ces histoires d'identification et d'appartenance, effectivement, peuvent rejaillir de manière violente, comme au Kenya peut-être en ce moment.
Alors, ces ethnies sont très nombreuses. On en compte à peu près une quinzaine pour ce qui concerne les plus importantes. Les Kikuyu, à peu près 22%, l'ethnie majoritaire, les Luya, les Luo, les Kalenjin, et puis d'autres, dont les Maasai, dont on parle beaucoup, mais qui en réalité ne représentent pas grand-chose, 1,5% de la population, et qui étaient donc présentes avant l'arrivée des premiers colons européens. Il y a d'abord eu les Portugais, puis plus tard les Anglais, qui ont fait de ce qui s'appelait pas encore le Kenya, c'est eux qui vont donner son nom au Kenya, qui ont fait de cette région de l'Afrique une colonie de peuplement, Hélène Charton.
Effectivement, les Anglais sont installés dans la région à la fin du 19e siècle. Donc, d'abord en exploitant en fait commercialement un territoire avec une compagnie, l'East African une compagnie commerciale, pour entrer dans les détails. Et à partir de 1895, ils ont entrepris la construction d'un chemin de fer qui va être très important dans l'histoire de la colonisation du pays, et notamment le choix de l'ouvrir au peuplement européen, notamment pour rentabiliser assez rapidement un territoire, un investissement très lourd, donc qui était ce chemin de fer qui reliait la côte
Mombasa,
de Mombasa au lac Victoria, enfin, donc l'actuel Ouganda. Et donc, dès 1901, l'idée naît qu'il faudrait faire venir des colons européens, mais aussi des colons venus d'Afrique du Sud, pour exploiter des terres qui...
Ou du Danemark, comme Karen Blixen.
Ou du Danemark, tout à fait, qui étaient effectivement des très bonnes terres agricoles. Et donc, un certain nombre de terres ont été aliénées, ont été préemptées par la couronne britannique et vendues à très bas prix à un certain nombre de pionniers, donc des gens comme Lord de la Mer ou Grogan, qui sont installés très vite, qui ont acheté des grandes parcelles qu'ils ont ensuite pu revendre à de plus petits exploitants, comme notamment Karen Blixen, par exemple.
Quand vous dites aliéné, ça veut dire retirer, en fait, aux populations qui s'y trouvaient. Il y a une phrase de Jomo Kenyatta qui disait « Quand les missionnaires arrivèrent, les Africains possédaient la terre et les missionnaires la Bible. Ils nous enseignaient comment prier les yeux fermés. Quand nous les ouvrions, ils possédaient la terre et nous la Bible. » Hein, c'est un raccourci peut-être, mais c'est ce que disait Kenyatta. Autrement, peut-être que les problèmes actuels viennent du fait que les populations qui habitaient au moment de l'arrivée des Anglais, eh bien, ont été dépossédées de leurs terres, Claire Bédard.
Je pense que c'est vraiment très important de comprendre ce cadre territorial qui s'est mis en place avec la colonisation. Il fallait créer de l'espace pour le peuplement européen. Et par contre-coup, les populations africaines se sont trouvées dans des territoires assez exigus, mais également délimitées par des frontières entre groupes ethniques. Donc des réserves ethniques qui constituent un héritage auquel les États contemporains indépendants ont dû, ils ont dû vraiment lutter pour arriver à une idée de nation.
Et puis, contre vraiment des méthodes coloniales qui, comme ailleurs, d'ailleurs, c'est pas le Kenya n'avait pas le propre, étaient extrêmement pénibles à supporter, même humiliantes. Il y avait, par exemple, on faisait venir, donc, en l'occurrence, dans les terres de Karen Blixen, des agriculteurs Kikuyu, qui étaient ce qu'on appelait des squatteurs, hein, mais ça voulait dire, je crois, qu'ils venaient sur les terres, on leur donnait un petit lopin de terre, mais ils étaient astreints au travail forcé. Puis alors, quelque chose extrêmement humiliant, c'était un contrôle d'identité qui se faisait avec ce qu'on appelait le kipande, qui était une carte portée autour du cou, Hélène Charton.
Oui, effectivement, il y a toute une législation sur le travail qui se met en place tout de suite, et notamment le kipande, qui est une sorte de livret ouvrier, donc qui indiquait le lieu de travail et le lieu de résidence donc d'ouvrier pour contrôler en fait ces mouvements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, la colonisation est assez coercitive, enfin, très coercitive en fait au Kenya, avec cette opposition entre les terres blanches européennes, donc interdites en fait aux Africains. La ville de Nairobi, par exemple, qui faisait partie de ces terres blanches, était une ville où les Africains n'avaient pas le droit de posséder la terre. Donc, venaient y travailler, par exemple, mais théoriquement, devaient regagner leurs réserves après ou être hébergés chez leurs employeurs. Et donc, les employés sur les domaines européens étaient les squatters. Mais ces réserves qui ont été dessinées dans les années 20 se sont très vite retrouvées sous pression démographique, puisqu'il n'a pas été question de les étendre très légèrement dans les années 30. Et donc, ça, c'est effectivement un problème, le problème foncier, donc à la fois la manière dont les populations vont se répartir sur le territoire et la pression qui va s'exercer. Et très importante. Et sur les aspects, effectivement, pour pouvoir faire travailler les gens, les obliger à travailler, l'administration a développé tout un tas d'outils comme l'impôt, notamment au début dans beaucoup d'autres colonies. Et puis, on requis les Africains pour exercer un certain nombre de jours nés de travail obligatoire, donc en partie sur ces fermes. Et du coup, du point de vue des Africains, on a eu effectivement cette impression de collusion très forte entre les intérêts du gouvernement colonial, des fermiers européens, et des missionnaires aussi, puisque pour rebondir sur la citation que vous évoquiez tout à l'heure. Donc effectivement, une colonisation assez violente, mais colonisation de peuplement à nuancer dans la mesure où les Européens ont jamais été très nombreux, jamais plus d'1% de la population. Si on compare à la Rhodésie ou à l'Afrique du Sud, on parle de 20%. Donc c'était surtout dans les pratiques qu'on peut parler de colonie de peuplement.
Un système colonial contre lequel vont se révolter les Kenyans à partir du moment où le Kenya devient officiel une colonie après avoir été un protectorat, une colonie britannique, des révoltes d'ailleurs dont la plus célèbre a été en 1952, celle d'une société secrète, les Mau Mau.
Mau Mau nous donnera la liberté et l'indépendance.
Mau Mau. I swear to kill an Englishman. Je jure de tuer un Anglais, sinon que ce serment me tue et ma famille.
I swear to kill an Englishman or may the shores kill me and my family.
L'état d'urgence a été décrété au Kenya. Les Kikuyu se sont engagés dans une faction terroriste appelée Maumau. Ils peuvent être dans vos fermes, vos villes et vos maisons. Tout Africain armé encourt la peine de mort.
Alors la révolte des Maumau, Hélène Charton, c'est la plus violente sans doute qu'ait connue le Kenya depuis qu'il est colonie britannique, proclamée officiellement colonie britannique en 1919. Et c'était une société secrète avec une prestation de serment qui inquiétait beaucoup les colonisateurs.
Alors, il y a eu beaucoup de fantasmes autour des Maumau.
Peut-être cet extrait de film qu'on a entendu.
Une phrase, par exemple, s'engager à tuer un Anglais. Par exemple, il y a eu finalement très peu de Britanniques tués dans le cadre de ce mouvement,
révolte,
qui est plutôt une guerre civile, finalement, qui, enfin, on va revenir là-dessus, qui est un mouvement nationaliste, mais et essentiellement des Africains qui ont été assassinés par d'autres Maumau, des Africains jugés trop modérés ou trop proches du pouvoir colonial, notamment. Donc, il y a eu beaucoup de fantasmes, je crois, autour de ce mouvement, effectivement, assez violent, mais qui était, enfin, on peut difficilement le présenter comme quelque chose de très unifié. En réalité, il y avait différentes mouvances, ne serait-ce que dans la manière dont il s'est développé. Il y avait tout un groupe qui était localisé dans la région du Mont Kenya, un autre dans la forêt des Aberdares, et puis encore une autre dynamique plus urbaine, celle-là, qui mettait en scène des acteurs différents avec des modes d'intervention différents. Donc, parler d'une société secrète, unie, etc., ça, je pense, c'est une vision qu'ont pu avoir, en effet, les Européens sur un mouvement qui les a déroutés. En revanche, ce qui est certain, c'est que la répression a été extrêmement violente et a duré bien au-delà des opérations militaires, puisque la guerre des Maumau, donc c'était une sorte de maquis, en fait, dans les forêts assez denses des hauts plateaux à Aberdare et Mont Kenya, est terminée en 1956 avec l'arrestation de son chef, enfin, un de ses chefs, Dedan Kimathi. Mais l'état du urgence reste en vigueur jusqu'en 1960. Et pendant toute cette période-là, il y a une période de répression très vive contre les populations Kikuyu, donc un certain nombre d'actions qui ont été menées pour, en quelque sorte faire effacer cette espèce d'idéologie soi-disant, était une menace pour le pouvoir colonial.
Parce que cette répression, elle a frappé des Africains modérés. Alors, il y en a un qui est très célèbre, qui deviendra le premier président de la République du Kenya, qui est Jomo Kenyatta, qui était déjà assez âgé, puisqu'il est né à la fin du 19e siècle, et alors qui réclamait cette opposition modérée, qui réclamait des réformes beaucoup moins radicales. Les Maumau évoquaient, pour certains d'entre eux, l'indépendance. Eux se contentent de réclamer la participation, par exemple, des Africains au gouvernement de la colonie, ce qu'on appelait le conseil législatif, la suppression du Kipande, le maintien des traditions. Et toute une. Avant les Maumau, il y avait déjà des revendications qui s'exprimaient, Hélène Charton.
Effectivement, il y a tout un courant modéré, donc qui est porté essentiellement par les premières élites éduquées, donc les gens qui ont fréquenté l'école secondaire, qui ont pu même poursuivre des études supérieures en Ouganda, à Makerere ou en Afrique du Sud. Et à partir au lendemain de la guerre, en fait, ces modérés trouvent un canal d'expression légale à travers une représentation au conseil législatif. Donc avant, ils étaient représentés par des missionnaires, mais là, deux membres sont nommés. Et puis, une petite organisation nationale qui permet de porter ces revendications. Mais évidemment, ça ne va pas assez loin. Et surtout, ils sont accusés, notamment par des membres des Maumau, d'être trop conservateurs et de ne pas redistribuer assez, peut-être, les richesses de la colonisation. C'est effectivement les gens qui sont allés à l'école, souvent des gens qui sont assez proches du pouvoir et qui ont pu accéder aux terres, etc. Donc le mouvement Maumau s'est notamment porté contre ce mouvement modéré. Et par exemple, Kenyatta lui-même était sur la liste des personnes que les Maumau avaient prévu d'assassiner.
Alors qu'il avait été arrêté à cause de la révolte des Maumau.
Donc sa situation est un peu paradoxale. Effectivement, du coup, les Anglais ont vu ça comme un mouvement très uni, très du nationalisme en général. Or, c'est un mouvement divisé. Et finalement, dans leur forme de répression, ils ont réussi à unifier un mouvement qui, au départ, était plutôt éclaté.
Alors cette révolte de Maumau, aussi brutale qu'a été la répression, elle a quand même poussé les Anglais à faire des concessions, à faire entrer un plus grand nombre d'Africains dans le Conseil législatif, dont d'ailleurs un futur président, Daniel Arap Moi, la libération de Kenyatta en 1961, le suffrage universel, et puis l'autorisation des partis politiques, dont celui de Kenyatta, qui s'appelait le KANU, le Kenya African National Union, avec lequel eh bien, il allait obtenir la présidence du Kenya lorsque les Anglais se sont résignés à accorder, à accepter l'indépendance, solennellement proclamée à Nairobi dans la nuit du 11 au 12 décembre 1963.
On voit maintenant le drapeau britannique qui commence à baisser dans la nuit kenyane. Et maintenant, les projecteurs sont sur M. Kenyatta au centre de l'arène. Et on voit maintenant le drapeau kenyan qui flotte.
Ce que mes yeux ont vu est difficile à décrire. Imaginez un stade envahi par plus de 1000 chanteurs, danseurs et danseuses, mêlant aux couleurs de leurs costumes l'éclat des lances, Maasai vêtus de plumes blanches, Kikuyu athlétiques et fiers, Luo rouges et bleus. Il est minuit, le Kenya est indépendant.
Harambe ! Harambe !
Harambe, marchons tous ensemble, c'était Jomo Kenyatta, donc la nuit de l'indépendance, le 12 décembre 1963. On a parlé d'une indépendance exemplaire, Claire Méda.
C'est vrai que c'est un moment historique très très fondateur pour l'ensemble des Kenyans jusqu'à l'heure actuelle. Mais je pense que la transmission de l'État, il y a une nouvelle constitution qui est négociée, mais la transmission territoriale de l'État s'est faite et on ne peut pas dire que l'indépendance marque réellement une rupture de ce point de vue-là, du point de vue du contrôle territorial. Il y a une transmission d'un cadre territorial et d'une administration territoriale, même s'il y a une africanisation. Dans les pratiques, on conserve au Kenya une très forte emprise de l'État localement, partout au Kenya.
Vous voulez dire qu'au fond, on reprend les mêmes, pas les mêmes méthodes, mais le même cadre que celui de la colonisation?
Les méthodes, quand vous faisiez allusion au Kipande tout à l'heure, c'est vrai que c'est seulement en 1997 qu'on abolit le Chiefs Act, qui donnait autorité à un chef dans une circonscription administrative d'exiger d'une personne d'aller voir le chef de la région d'origine pour obtenir une lettre, pour lui permettre de travailler dans cette nouvelle localité. C'est quelque chose qui a été aboli seulement en 1997. Et donc, il y a des frontières internes au Kenya, comme entre des
déterminées
Maasai.
Par les ethnies, je suppose, oui.
C'est les anciennes limites des réserves ethniques. Oui. Donc, c'est purement administratif, même s'il y a une base de population qui est évidemment hétérogène. Mais en même temps, ces limites, elles sont liées à l'administration. Et tout l'effort de l'administration sous la colonisation, ça a été toujours de séparer pour faciliter la gestion des différentes communautés.
On a entendu Kenyatta, premier président de cette république indépendante du Kenya, annoncer qu'il se présentait comme le président de tous les Kenyans, toutes ethnies confondues. D'ailleurs, il va faire rentrer dans son gouvernement des représentants de toutes les ethnies. Et pourtant, très vite, ce régime qui a duré 14 ans, Kenyatta est resté 14 ans à la tête de l'État kenyan, eh bien, devient tout de suite un régime très autoritaire, en tout cas à partie unique.
Je pense qu'il faut vraiment distinguer le niveau d'un discours nationaliste et le niveau des pratiques politiques. Donc effectivement, avec Kenyatta, on commence à dire que les Kenyans ont le droit de résider n'importe où au Kenya. C'est le Kenya, c'est la nation kenyane. Mais dans le même temps, pour avoir accès à la terre, en particulier aux anciennes terres européennes qui sont disponibles de façon négociée, il faut avoir accès à l'État et au pouvoir de l'État. Et donc, ce sont des grands... Il y a une répartition ethnique entre les différents groupes ethniques, mais c'est vrai que les Kikuyu ont eu la part du lion du fait de leur proximité avec le pouvoir et l'État.
Oui, alors justement, est-ce que c'est là qu'apparaissent au fond les deux fléaux du Kenya d'aujourd'hui encore, c'est-à-dire la corruption, c'est-à-dire aussi le népotisme au profit des Kikuyu, c'est sous Kenyatta?
Alors, ce n'est pas seulement au profit des Kikuyu. C'est-à-dire que c'est un État qui se met en place à l'époque de Kenyatta, effectivement, où une base ethnique est très importante pour comprendre le soutien politique national. Ça se met en place au Kenyatta et on va éventuellement distribuer des terres pour obtenir un soutien politique. Mais la période suivante, c'est le même schéma qui se poursuit.
Alors Kenyatta, qui meurt en 1978, après 14 ans passés à la tête du Kenya, est remplacé par son vice-président, Daniel Arap Moi, qui allait s'y maintenir, lui, pendant 25 ans, élu 5 fois, dont la dernière fois en 1998, RFI Arnaud Wurst, le 5 janvier 1998.
Plus de 10 000 Kenyans sont venus ce lundi matin, malgré la pluie matinale, pour célébrer leur nouveau président. Et après le salut traditionnel de la foule, Daniel Arap Moi, en tant que chef suprême des armées, a mené la revue de ses troupes, impeccables dans leurs costumes d'apparat rouge et noir. Et il n'a fallu que quelques minutes au président Moi pour jurer la main sur la Bible, et ceci pour la cinquième et dernière fois, qu'il respectera fidèlement la constitution de la République du Kenya. Et de conclure son serment par « Moi, Daniel Arap Moi, jure de remplir mes fonctions sans parti pris, sans peur ni favoritisme. » Je suis victorieux, la démocratie est victorieuse, les Kenyans sont victorieux. Ma victoire est la victoire de tous les Kenyans. Arnaud Wurst, Nairobi.
Je suis victorieux, disait Arap Moi en 1998, élu pour la cinquième fois dans un régime qui était très autoritaire à ses débuts, même si il prétend lui aussi gouverner pour l'ensemble des Kenyans. Et ça a duré 25 ans, ce régime, avec système de parti unique, jusqu'à ce que la communauté internationale, par le truchement du FMI, réclame dans les années 90 que le Kenya adopte le multipartisme et la démocratie, Hélène Charton.
Effectivement, le Kenya a été un petit peu touché par cette vague de démocratisation, donc la fin des années 80, début des années 90. Et les pressions ne sont pas simplement, il faut le souligner, venues de l'extérieur. Il y a également eu des groupes de pression très actifs à l'intérieur du Kenya, notamment les églises et la société de droit, la Law Society, qui ont fait des pressions à l'intérieur du pays pour effectivement demander ce multipartisme. Mais je pense qu'il faut insister sur les conditions d'élection donc de 90. Et les premières élections de 92 qui ont été assez violentes et qui ont donné lieu notamment à un certain nombre d'actions que Claire va commenter.
Claire Méda.
Une stratégie territoriale de la part du président Moi d'allier des populations minoritaires, c'est-à-dire en premier lieu son groupe Kalenjin, mais d'autres minorités comme sur la côte, contre ce qui était perçu comme cette menace d'un processus de démocratisation. Donc ce n'était pas une réaction démocratique du tout, c'était un réflexe assez autoritaire.
En tout cas, ce que fait Arap Moi dans les années 90, il s'engage à respecter la Constitution qui prévoyait son départ à l'issue de son cinquième mandat, laissant en 2002 la place au chef d'une coalition d'opposants, l'actuel président Kibaki. France Inter, Denis Estagnaud, le 29 décembre 2002.
Au Kenya, les élections présidentielles, législatives et locales ont été transparentes, libres et équitables. Résultat, c'est l'opposition qui a gagné, une victoire historique qui met fin à un quart de siècle de règne de Daniel Arap Moi. C'est un vieil opposant, Mwai Kibaki, qui va lui succéder. Il a 71 ans, la correspondance de Radio France Internationale.
Les Kenyans ont décidé de rompre avec le passé et de commencer une nouvelle vie. Je peux vous assurer que le gouvernement que nous allons former dans les prochains jours sera un gouvernement d'union nationale. L'union nationale, cela signifie que les Kenyans de tous les horizons soient réellement représentés dans ce gouvernement.
Et c'était Mwai Kibaki prêtant serment il y a 6 ans en Swahili et annonçant donc, comme ses deux prédécesseurs, qu'il allait former un gouvernement d'union nationale, élu dans la liesse, suscitant énormément d'espoir à la tête de cette coalition dite de l'arc-en-ciel. Et 8 ans après, on a vu ce qu'a donné sa réélection. Comment expliquer cette déconvenue en l'espace de 6 ans, Claire Méda?
Effectivement, un immense espoir en 2002 et une volonté de changement qui est affichée dans les discours, mais en même temps, toutes ces réformes qui sont annoncées ont beaucoup de mal à se mettre en place. Il y en a un certain nombre qui se sont mises en place, mais une réelle volonté de changement politique et de changement de fonctionnement de l'État et de sa manière de nourrir les antagonismes ethniques, effectivement, elle n'existe peut-être pas.
Vous voulez
pas.
Dire que c'est lui qui les entretient, que c'est l'État, notamment les gens au pouvoir, qui les entretiennent. On dit souvent que les antagonismes ethniques sont un petit peu la cause des affrontements interethniques, alors que vous semblez dire qu'au fond, on les instrumentalise,
oui,
justement.
Je pense qu'il faut le comprendre de cette manière-là. Il faut bien voir qu'un dirigeant politique local a une base politique et locale qui est ethnique. Une circonscription électorale ethnique. C'est une, très facile à mobiliser les gens sur cette base-là. Et puis ensuite, le pas qui est de mobiliser aussi sur le registre de la xénophobie à l'égard des autres, c'est un pas facile à franchir.
Oui, mais Kibaki, enfin, c'est pas Kibaki qui est à l'origine, par exemple, des massacres de Kikuyu qui viennent de se produire. Est-ce que là, c'est pas son adversaire, justement, Raila Odinga, qui instrumentalise les antagonismes ethniques?
Non,
Il faut vraiment faire... Parce que frauduleusement, c'est Kibaki qui l'a été.
Il faut faire attention pour ce qui est d'établir les responsabilités à un niveau politique national, en quelque sorte. Et donc, il se renvoie la balle, hein. C'est vrai, à certains moments, le régime Kibaki et Raila, de dire que c'est l'un qui est responsable des meurtres de la communauté de l'autre. Mais localement... la manière dont ça se met en place, ça échappe en partie au contrôle, mais c'est quand même lié au pouvoir et à la structure de cet État.
Est-ce que beaucoup d'États africains en général, le Kenya en particulier, est condamné à cela? La corruption, c'était au programme également de Kibaki, de la faire disparaître, et lié à ces conflits ethniques, Hélène Charton?
Je pense que Claire a répondu sur les conflits ethniques, mais je crois qu'il y a une question sur la déception autour de Kibaki qu'on n'a pas évoquée, mais qui me semble très importante aussi pour comprendre ce conflit, c'est les changements justement au niveau constitutionnel et d'équilibre entre les différents groupes, les différentes régions qui existent au Kenya. Et depuis 92 et depuis le mouvement de libéralisation, il y avait un projet de réformer la constitution, de nommer un premier ministre, de partager un peu le pouvoir, de rééquilibrer entre les régions, etc. Et tout ça a toujours été repoussé, remis. Il y a eu un référendum en 2005, mais qui a échoué. Et je crois qu'il y a cette dimension-là d'articuler mieux le politique, les régions et les identités ethniques. Et c'est effectivement une équation extrêmement compliquée. Le Kenya a également buté dessus, mais j'espère que...
Voilà. C'est en tout cas qui semble se calmer actuellement. Claire Médard et Hélène Charton, je vous remercie. Je signale que vous avez dirigé ensemble l'Afrique orientale, annuaire 2004 et 2005, publié chez l'Harmattan, et que vous, Hélène Charton, vous êtes l'auteur avec Daisy Rodriguez-Torres du livre Nairobi contemporain, les paradoxes d'une ville fragmentée aux éditions Cartala Ifra. À lire également Le Kenya contemporain, dirigé par François Grignon et Gérard Prunier, publié en 1998 aux éditions Cartala. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Out of Africa de Sidney Pollack, disponible en DVD chez Universal, et Le Carnaval des Dieux de Richard Brooks. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Anne-Laure Cochet et Loïc Frapsos. Documentation, RFI et INA. Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Franck Olivard, Sophie Gillery et Karine Hardy. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une histoire du climat.